On est dans une série sur 1 Corinthiens 13 depuis quelques temps. Et on fait une petite pause aujourd'hui pour regarder un autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, la guérison d'un aveugle de naissance. Et tout ça parce que pour cette journée de baptême, on voulait regarder un peu plus sur l'évangile. Et donc je vous invite à chercher Jean, chapitre 9. Jean, chapitre 9. On va essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en Jésus ? Jean, chapitre 9. C'est tout le chapitre qui raconte cette histoire. On va pas tout lire, mais on va lire les premiers versets, versets 1 à 12, et puis ensuite on lira la fin, la conclusion que Jésus apporte. Je vais passer assez rapidement le discours entre Jésus, entre les questions des pharisiens, mais on y reviendra pendant notre message. Je vous invite donc à lire avec moi Jean chapitre 9, les versets 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y a là, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait « C'est moi !» Et lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. » Et lui dire, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Un docteur, cardiologue, ça marche pas ? Ah, pardon. Un docteur. Ça va mieux, là ? Vous avez rien entendu du texte ? Bon, j'espère que vous avez suivi. Un docteur, docteur Martin, c'est un cardiologue expérimenté qui a dû prendre en charge sa mère qui avait été récemment hospitalisée pour des douleurs thoraciques. En bon fils, particulièrement inquiet pour l'état de sa mère. Et il a cherché à la rassurer rapidement. En faisant cela, il a écarté encore plus rapidement l'hypothèse d'un infarctus, pensant qu'il s'agissait au fond simplement de stress et d'une crise d'angoisse. Il faut dire que sa mère était sujette à ce genre de crise d'angoisse. Poussé par l'émotion, par son désir de la rassurer, il a minimisé certains signes cliniques évidents. Douleur irradiante, sueur et aussi fatigue terrible. Et du coup, il a retardé l'examen d'un électrocardiogramme, il a retardé une prise de sang qui aurait pu détecter l'infarctus. Quelques heures plus tard, l'état de sa mère s'est détérioré brutalement. Elle a fait un infarctus du myocarde sévère qui aurait pu être pris en charge bien plus tôt avec une approche objective Le docteur Martin, il a été influencé par ses émotions, par sa peur, par son attachement à sa mère. Et il a voulu protéger sa mère de l'inquiétude, au lieu d'adopter une démarche plus rigoureuse, plus détachée. Il a interprété les symptômes à travers le prisme de sa relation personnelle avec sa mère. Non, avec ses compétences, au fond, de médecin cardiologue. Il n'a pas su prendre le recul nécessaire. Il n'a pas transmis sa mère à un autre médecin. Soigner un proche, c'est risquer de ne pas être un bon médecin. Et soigner un proche, c'est aussi risquer de ne pas être un bon membre de famille. Parce qu'il y a quelque chose qui nous aveugle sur les évidences. Il y a un vrai aveuglement ici de cette personne. Et dans nos vies, on peut nous aussi connaître un aveuglement sur nos perceptions des situations. Et ce que je voudrais évoquer ce matin, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que Jésus, la lumière du monde, ouvre les yeux de ceux qui reconnaissent leur aveuglement, mais laisse dans les ténèbres ceux qui prétendent voir par eux-mêmes. Mon épouse, qui est médecin, elle voulait pas soigner nos enfants, bébés. Justement, pour ça, pour éviter ça. Parce qu'elle reconnaissait, au fond, qu'elle était aveugle. C'est un excellent médecin, par ailleurs. J'assure mes arrières, hein, vous voyez, mais elle ne voulait pas le faire parce qu'elle savait qu'elle était aveugle à cause de sa relation, sa proximité avec ses enfants. Ce matin, je voudrais qu'on regarde cela. On va voir la guérison, on verra ensuite la réaction de plusieurs et puis l'adoration finalement de notre aveugle guéri. Regardons la guérison tout d'abord. Vous avez vu que tout commence par une question des disciples qui n'est pas à proprement parler le sujet du jour, mais qu'il faut néanmoins considérer parce que certaines injustices dans nos vies peuvent nous faire rejeter Dieu. Hein, par exemple, s'il est mon créateur et qu'il m'a fait aveugle, je comprends pas ça. C'est difficile à concevoir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que je m'approcherai d'un Dieu qui m'a fait aveugle? Et donc, les disciples ont cette pensée-là et ils vont venir devant Jésus avec cette question. Et visiblement, ils pensent qu'il y a un lien direct entre le fait que cet homme soit aveugle et avec son péché. Et donc, ils viennent avec cette question. Est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché? Avant de répondre à cela, je voudrais regarder un petit peu plus cette question, cet aspect-là, cette pensée qu'on trouve là, ici, dans notre texte, mais qui est aussi tenace, même parmi dans les milieux chrétiens. Cette pensée, est-ce que les gens qui sont en bonne santé, c'est parce qu'ils sont sages? Est-ce que les gens malades, c'est parce qu'ils ne sont pas gentils? Vous savez, on a cette expression, hein, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça reflète cette mentalité-là. C'est-à-dire, on est en train de penser, parce que je souffre, Dieu doit être contre moi. Mais c'est une vision qui pose de vrais problèmes théologiques si on la prend comme une règle générale. D'abord, elle contredit l'expérience biblique. On voit dans la Bible beaucoup de justes qui souffrent. Le cas de Job est particulièrement flagrant. Job, dont Dieu a dit lui-même que c'était un homme intègre, un homme juste, comme personne d'autre. Et pourtant, cet homme a tout perdu. Il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a même perdu toute sa santé. Et puis, à la fin, ses amis, les amis de Job, qui avaient cette mentalité, « Job, s'il t'arrive autant de souffrances, c'est certainement que tu as fait quelque chose de mal. Hein, nous, on ne l'a pas vu, mais tu l'as caché quelque part. Tu as... » Et à la fin du discours, à la fin du livre, Dieu condamne ses amis en leur disant « Vous avez mal parlé de moi, je n'agis pas comme cela. » Asaph, il était troublé, le psalmiste Asaph dans le psaume 73, il est troublé parce que les méchants prospèrent alors que les justes souffrent. Jésus est parfaitement juste et sage et pourtant il a été rejeté, il a été persécuté, il a été crucifié. Et nous tous, dans notre expérience de vie, eh bien nous savons et nous avons vérifié que beaucoup de gens bien souffrent et des gens pas bien, si je peux dire, prospère. La deuxième chose, c'est que cette façon de voir, ça alimente une manière païenne, en fait, de voir Dieu et de voir la rétribution divine. C'est un peu comme le karma, hein, vous savez, cette logique de la pensée d'une récompense immédiate. Tu fais bien, t'es béni, tu fais pas bien, t'es maudit. Ça réduit Dieu à un distributeur de bénédictions matérielles seulement, conditionnées à nos performances. Et ça, c'est une pente glissante vers une forme de théologie de la prospérité qui dirait « Approche-toi de Dieu, tu seras béni, et si tu t'approches pas, tu vas être maudit. » Ou « si tu t'approches de Dieu, si tu lui fais confiance, eh bien, tu vas devenir riche, tu vas prospérer. » Non, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et puis, elle nie une vérité importante qui est que dans la perspective biblique, les épreuves ne sont pas des preuves d'échec spirituel, mais plutôt des instruments de formation divine. Dieu utilise les souffrances, les difficultés pour nous façonner à sa ressemblance. C'est un de ses moyens pour nous façonner. Et puis enfin, cette manière de voir est catastrophique sur le plan pastoral. Elle culpabilise des personnes qui traversent l'épreuve. Si tu souffres, c'est de ta faute. Tu souffres et en plus, tu te sens coupable. Et puis elle engendre, contrairement à l'inverse, de l'orgueil chez des gens chez qui tout va bien. Si tout va bien, c'est que je suis sage. Et puis du coup, elle brise la solidarité chrétienne, la compassion chrétienne. Au lieu de porter les fardeaux les uns des autres, comme le Nouveau Testament nous y invite, elle nous pousse à juger et à isoler les gens. Ha, tu souffres, ouais, c'est Dieu qui te fait souffrir. Le problème dans cette situation ici, c'est que l'aveugle est né aveugle. Difficile de lui dire « T'as péché, c'est pour ça que t'es aveugle. » Parce qu'il n'avait pas encore, j'avais envie de dire, mis le pied dehors, et qu'il était déjà aveugle. Certains ont pensé qu'on pouvait pécher dans le ventre de sa mère. Mauvaise piste. Mais les disciples sont embarrassés avec cette situation et vont voir Jésus et lui disent « Qui est-ce qui a péché ? Est-ce lui ou est-ce ses parents ?» Et voici la réponse de Jésus qui écarte tout lien de cause à effet entre le péché spécifique et cette souffrance spécifique. Jésus ne dit pas que le péché ne cause jamais de souffrance. Parce que dans un sens général, on pourrait dire que finalement tout péché, toute souffrance et la mort sont les conséquences du péché originel. C'est d'une manière générale que le péché a frappé et a impacté toutes nos vies. Mais il dit qu'il n'y a pas un lien direct entre un péché et la souffrance de cet homme direct. En tout cas, pas dans cette circonstance, pas dans cette situation. Jésus dit au verset 3, « Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Ça, c'est une nouvelle voie. C'est comme s'il disait « C'est mon instrument pour que je puisse révéler ma gloire. » Ça suggère que la souffrance peut devenir un lieu de révélation et de grâce et une révélation de la puissance de Dieu plutôt qu'un signe de culpabilité. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Voilà ce que je veux révéler. Je veux révéler ma personne. Je veux révéler que je suis capable d'éclairer les cœurs, d'ouvrir les yeux physiques, mais surtout les yeux du cœur. Jésus est venu, au fond, pour nous rendre la vie spirituelle. Et voilà son acte. Verset 6, il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive, il l'applique sur les yeux de cet aveugle, il l'envoie se laver au réservoir de Siloé, l'aveugle se lave et il est guéri et il voit. C'est intéressant que c'est la seule fois où Jésus fait de la boue pour guérir. Ouais. C'est un peu bizarre aussi. Hein. Il voit encore moins bien, si je peux dire, avec de la boue, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, en fait? Il n'a pas besoin de faire de la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle. D'ailleurs, lorsque vous connaissez cette histoire de Bartimée, mendiant, aveugle comme l'était cet homme, il entend que Jésus est en train de passer près de lui, il l'interpelle. Et puis, il lui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il dit « Mais que je recouvre la vue !» Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Pas de boue, pas de rien. Qu'est-ce qui se passe au fond ici ? Simplement le fait que cet homme, il a entendu que Jésus passait. Il l'a appelé « Fils de David, aie pitié de moi », c'est-à-dire c'est toi le Messie, tu as la puissance. Le Messie est celui qui, dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, il disait que comment il se ferait connaître ? En ouvrant les yeux des aveugles. Et donc il a compris, si c'est le Messie, il peut ouvrir mes yeux. Donc il le lui demande, et Jésus le fait. Et donc cet homme a manifesté sa foi, mais pour notre aveugle né ici, il a rien demandé d'ailleurs jusqu'à présent. C'est les autres qui l'ont vu, ils ont posé cette question, ils ont débattu devant lui, est-ce que c'est ses parents, est-ce que c'est lui ? Et Jésus a fait de la boue, il lui a rien demandé, il lui a fait de la boue, il lui a mis ça sur les yeux, et puis il lui a dit « va ». Et en fait, pourquoi est-ce qu'il lui dit « va et va te laver » en fait ? C'est « si tu crois véritablement que je suis le Fils de Dieu, que je suis le Messie, et que j'ai la puissance de t'ouvrir les yeux, vas-y, va. » C'est-à-dire, montre ta foi, implique ta foi dans ma parole. Et puis, vous avez remarqué que l'évangéliste Jean, là, il dit que le réservoir de Siloé, ça signifie « envoyé ». Une petite précision là, entre parenthèses, mais « envoyé », qui est l'envoyé, en fait ? Mais dans le chapitre précédent, chapitre 8, à 5 reprises, Jésus dit qu'il est celui que le Père a envoyé. Au chapitre 9, juste 3 ou 4 versets plus tôt, au verset 4, il dit « les œuvres de celui qu'il m'a envoyé ». Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Va te laver au réservoir de Siloé qui signifie « envoyé ». C'est comme s'il est en train de lui dire « tu vas faire confiance à celui qui a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les yeux des cœurs ». Jésus a donc fait de la boue pour que l'aveugle exerce sa foi en allant se laver. Et ce récit de cette guérison illustre merveilleusement le processus de salut qu'ont décrit nos frères qui ont été baptisés. Aveuglés par le péché, les pécheurs sont dans l'incapacité de reconnaître le Sauveur ou de le trouver par eux-mêmes. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 4, il dit que le diable a aveuglé notre intelligence, notre compréhension. Et si Jésus ne l'avait pas cherché, ne s'était pas révélé à lui comme la lumière du monde, l'aveugle n'aurait pas été guéri. Il en va de même pour le salut. Si Dieu ne se faisait pas connaître aux pécheurs que nous sommes spirituellement aveugles, personne ne serait sauvé. Comme l'aveugle n'a pas pu être guéri qu'en obéissant à l'ordre de Jésus et en allant se laver au réservoir de Siloé, les pécheurs ne peuvent pas être sauvés non plus, sinon en acceptant la vérité de l'Évangile avec humilité et avec foi. Regardons à présent, si vous voulez bien, les réactions. Il y a eu plusieurs réactions. Il y a les voisins, il y a les parents, il y a les pharisiens. On avait déjà lu au sujet des voisins. Les voisins ne croient pas, non pas parce que les faits sont douteux, mais parce qu'ils sont enfermés dans leur logique humaine. Le miracle est trop grand, trop important, trop dérangeant même. Quand une personne se tourne vers Christ, le changement est parfois tellement important, tellement inattendu, tellement dérangeant pour l'entourage, que plutôt que de se tourner vers Christ à leur tour, ils cherchent des explications bidons, excusez-moi. Ils pensent que le changement est passager. Il reviendra comme avant, de toute façon. Ils trouvent plus facile de croire à une erreur d'identité, vous avez remarqué, qu'à une guérison miraculeuse. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemble quand même. Il y a un certain confort dans le fait d'être sceptique. Vous savez, de garder un peu de flou. On préfère ne pas poser trop de questions. C'est étonnant, il ne pose pas plus de questions. Des fois qu'on aurait des réponses. Mais l'aveugle, lui, il dit « Hé, c'est moi !»« C'est moi !» Et ça, ça ne les trouble pas plus que ça. Néanmoins, il l'emmène devant les pharisiens pour que les pharisiens authentifient un peu la chose. Et donc, ça, on voit ça dans les versets qui suivent, à partir du verset 13. Mais les pharisiens vers lesquels il est envoyé, ne croient pas non plus. Jusqu'au moment où ils disent « mais il faudrait faire venir les parents, comme ça ils pourront confirmer la chose ». Ils font venir les parents et les parents disent « c'est lui !» C'est lui. Les parents, ils ne s'opposent pas au miracle, mais ils n'osent pas quand même reconnaître publiquement, par peur d'être exclus de la synagogue. Regardez verset 22. Verset 21. Mais comment il voit maintenant, c'est lui, mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera en ce qui le concerne. Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Voyez un peu la chose. Être exclu de la synagogue à l'époque, ce n'est pas simplement être privé du culte le dimanche. C'est être mis au banc de la société. C'est être rejeté socialement dans sa famille. C'est être isolé, c'est perdre son réseau. Leur réaction est un exemple de l'influence de la pression sociale et religieuse qui pousse parfois à garder le silence au lieu d'affirmer sa foi en Jésus. et de lui faire confiance pour les conséquences. Je comprends cette pression. Il faut parfois être peut-être un peu sage quand on témoigne de notre foi dans notre entourage, pour ne pas choquer inutilement ou embarrasser inutilement. Mais au fond, qui est le plus à craindre ? Dieu ou les hommes ? Et parfois, c'est cela qui nous empêche de placer notre confiance en Christ, de se déclarer comme nos frères l'ont fait il y a quelques instants, publiquement devant leur famille, devant leurs amis, devant leurs frères et sœurs, en disant « Voilà, Christ a touché mon cœur, il m'a sauvé, il m'a pardonné. Je veux que vous le sachiez. » Il peut y avoir des gens à qui ça déplaît. Mais Jésus a quand même tiré un peu cette ligne de démarcation. Il a dit « Faites-vous baptiser. Déclarez-vous. Prenez position en faveur du Seigneur Jésus-Christ. » Peut-être vous êtes un peu comme les parents, c'est-à-dire pensez « Oui, c'est vrai. Franchement, dans cette église, j'y vais de temps en temps. Ouais. Oh, il y a une chorale de dingue. Franchement, des fois, ils disent des trucs pas bêtes, hein, pas faux. Même intéressants, des fois. Mais toi, tu fais partie de cette église ?
Bon,
moi, j'accompagne ma femme. Ou j'accompagne mon mari. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ose pas prendre position. Ici, le Seigneur nous invite à prendre une position. Et puis, il y a la réaction des pharisiens. Les pharisiens, ils refusent de croire au miracle de Jésus, non par manque de preuves, mais à cause de leur aveuglement spirituel volontaire. Ils rejettent l'action de Jésus parce que le miracle a eu lieu le jour du sabbat. Ils vont dire cela à plusieurs reprises. Mais le signe par lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le signe par lequel Jésus devait se révéler comme étant le Messie, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Et c'est particulièrement approprié d'accomplir ce signe le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour consacré à l'Éternel. Mais eux, ils sont prisonniers de leurs préjugés. Ils refusent toute remise en question. Leur attachement à leur autorité religieuse les empêche d'accepter un fait qui donnerait raison à Jésus, en fait. Ils ont déjà convenu qu'on ne doit pas croire en Jésus. Et quand l'homme guéri ose les défier, il le méprise et il l'exclut. Verset 34. C'est terrible. Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Terrible. Ils montrent par là qu'ils préféraient rejeter un témoignage évident plutôt que de reconnaître la vérité. Et à la fin du passage, Jésus révèle que ce sont eux les vrais aveugles. Car ils prétendent voir tout en refusant de croire à l'évidence. Comme les pharisiens, certaines personnes aujourd'hui refusent de voir ce que Dieu fait, non parce qu'ils manquent de preuves, mais parce qu'elles ne veulent pas que cela remette en question leurs idées, leur confort ou leur manière de vivre. C'est parfois plus facile de nier la vérité dérangeante que de changer. On peut être religieux tout en étant aveuglé par l'orgueil, par les habitudes ou la peur de perdre le contrôle. Ce texte, il nous invite à examiner notre propre cœur, au fond. Sommes-nous prêts à voir ce que Dieu fait, même si ça nous dérange ? Sommes-nous capables de reconnaître la vérité, même quand elle vient par des personnes inattendues ? L'aveugle guéri a reconnu Jésus, il a cru en Jésus. Les pharisiens, eux, ils ont vu, mais ils ont choisi de rester aveugles, de fermer leurs yeux. À chacun de nous de choisir entre la lumière et l'aveuglement volontaire. Vous savez, on a l'habitude de dire « il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ». C'est vrai, pas plus aveugle. La pire forme de cécité n'est pas physique, mais intérieure. C'est le refus de voir la réalité. Même quand elle est devant nous. Même quand les signes sont clairs. Même quand les témoignages sont probants. Même quand les vies sont changées. C'est pas... Vous vous souvenez du Titanic ? Ça n'est pas seulement un iceberg qui a coulé le Titanic, mais surtout l'orgueil, l'excès de confiance des hommes. Les constructeurs et les exploitants du navire refusaient de voir ce qu'ils ne voulaient pas admettre. Ils étaient aveuglés par leur orgueil, par leur suffisance. Même Dieu ne pourrait pas couler ce navire. Et ils ont méprisé les messages d'alerte envoyés. Même après l'impact avec l'iceberg, les passagers de la première classe ne pensaient pas que le navire allait sombrer. Au deuxième, troisième classe, ils avaient les pieds dans l'eau, donc ils commençaient à paniquer. Mais l'ingénieur a fait les calculs. Et alors que le navire était encore bien à l'horizontale, il a dit « Le Titanic va couler. » C'est mathématique. Il va couler. Parfois, les vérités sont évidentes et on a du mal à les saisir. Le docteur Martin, c'est un bon cardiologue. Il a soigné, il a pris en charge quantité de personnes qui étaient en train de faire un infarctus. Mais avec sa mère, il a été aveuglé par son attachement et par ses émotions, sa peur. Peut-être certaines émotions peuvent vous empêcher de voir les réalités de Christ. Regardons l'adoration, c'est la fin du chapitre. Le récit de Jean, il est construit d'une manière étonnante, surtout d'une manière à nous montrer l'évolution positive de l'aveugle et celle négative des pharisiens. L'aveugle, lui, il s'en tient aux faits et il reconnaît humblement son ignorance. Il dit, mais qui est-ce qui t'a ouvert il m'a mis de la boue et puis il m'a dit d'aller au réservoir de Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est juste des faits. Les autres ont commencé à discuter les faits. C'est pas possible. Ce qui est étonnant, c'est aussi que l'opposition des pharisiens envers l'homme qui a été guéri n'a fait que pousser cet homme dans la foi. Il s'est affermi de jour, j'allais dire de jour en jour, mais d'opposition en opposition. Au début, il l'appelle l'homme qu'on appelle Jésus, et puis ensuite il le déclare prophète. Ensuite, il en parle comme un homme venant de Dieu, que Dieu exauce. Et puis regardez, verset 35, je vous lis les versets qui arrivent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. J'aime ça. Il l'adora. C'est très important qu'il l'adore. L'adoration, elle va être révélatrice de ce qui est très important dans nos cœurs. Au fond, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils adoraient ? Ben, ils adoraient leur religion. Ils s'adoraient eux-mêmes. Les parents, ils adoraient la tranquillité, pas de vagues. Les pharisiens, ils adoraient leur confort. Les voisins, ils adoraient leur confort, ils adoraient leur situation. D'une certaine manière, le docteur Martin, il adore sa mère, peut-être pas avec des guillemets, peut-être. Mais c'est ça qui l'a masqué, sa compréhension de la situation. Les exploitants du Titanic, ils adorent leur bateau. Ils ont dit, même Dieu ne peut pas couler ce navire. Et ils ont été aveuglés par leur adoration. C'est-à-dire qu'une mauvaise adoration nous aveugle, nous tient dans l'aveuglement. Une bonne adoration, l'adoration de Dieu, de Jésus-Christ, nous éclaire, nous ouvre les yeux. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est si je ne crois pas encore en Jésus-Christ, c'est quoi mon adoration ? C'est quoi ce qui a tellement d'importance dans ma vie ? Parfois, c'est le contrôle de notre propre vie. C'est-à-dire, c'est moi qui contrôle ma vie, pas Et c'est cela la bataille qui se livre dans nos cœurs. Qu'est-ce qui sera adoré ? Dieu lui-même, Jésus-Christ, ou nous-mêmes, l'homme ? Si votre confiance est dans ce que vous avez fait, dans vos traditions, dans vos mérites, elle n'est pas en Christ. C'est quand on la met en Christ que nos yeux s'ouvrent. À la croix, Jésus a été plongé dans les ténèbres. Souvenez de ce moment. À midi, alors que Christ était crucifié, à midi, jusqu'à 15 heures, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'était des ténèbres physiques, une éclipse, plus de lumière. Mais c'était aussi une des ténèbres spirituelles. Il est dit que Jésus, à ce moment-là, a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était comme si les ténèbres avaient envahi sa propre personne. C'était nos ténèbres, notre aveuglement qu'il prenait sur lui pour que nos yeux puissent être ouverts. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en Jésus ? Est-ce comme les voisins qui trouvent le changement trop dérangeant pour l'accepter ? Peut-être que toi aussi, tu as vu des vies transformées, mais tu préfères croire en une illusion plutôt qu'à une intervention divine. Ou bien comme les parents, tu sais que Jésus agit, mais tu restes silencieux de peur de ce que les autres vont dire. Peur du rejet, peur de perdre ton statut, ton confort, ton réseau. Ou encore comme les pharisiens, tu refuses de voir ce qui est évident parce que croire signifierait renoncer à ton autonomie, à ta façon de penser, à ton autorité sur ta propre vie. Tu préfères l'aveuglement d'un système que tu maîtrises à la lumière d'un sauveur que tu ne contrôles pas. Mais à travers ces hommes, cet homme guéri, Dieu te montre une autre voie, celle de l'humilité, celle de la foi et de l'adoration. Jésus est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui reconnaissent leur cécité. Pourquoi ne pas lui dire, « Seigneur, ouvre mes yeux, je t'ouvre mon cœur. » Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, pour le témoignage de nos frères, pour l'œuvre de guérison de cet aveugle. Merci de ce que tu nous as donné tellement de, de faits. Notre foi, elle repose pas sur une conjecture, mais sur des faits. Tu es véritablement celui qui a fait des miracles, authentifiant que tu étais de Dieu, que tu es Dieu. Tu es véritablement mort sur la croix, non pour tes fautes, mais pour les nôtres. Tu es véritablement ressuscité d'entre les morts pour nous offrir une vie nouvelle. Tu vis éternellement, tu règnes éternellement dans ce monde. Et tu dis même que tu nous prépares une place pour que là où tu es, nous y soyons aussi. Et Seigneur, on te demande pour que chacun ici puisse t'adorer, croire et t'adorer de tout son cœur, soumettre notre propre cœur à ton autorité, à toi, reconnaître que tu nous as aimés, que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, viens éclairer chaque cœur qui peut être encore troublé par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.